Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu fasse son œuvre au travers de nous. Que quelqu'un dise avec moi la grâce surabondante.
On va ouvrir nos Bibles.
Dans Jean 1 au verset 12. Moi, je vais le lire dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante, Jean 1, au verset 12, il est écrit ceci. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Dans les versions que vous avez, il est écrit, à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que c'est le verset. Voilà, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans la version parole vivante, il précise, peu importe la race et le sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus. Sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. C'est Dieu qui t'a fait naître. Depuis le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est Dieu qui t'a fait naître. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang de tes parents. C'est pour ça qu'il dit « non du sang ». Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Christ. Le corps qui te porte s'appelle le temple du Saint-Esprit. L'être que tu es est composé de trois parties, esprit, âme et corps. Tu es un esprit créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est parfait, donc tu es parfait. Tu n'es pas parfait dans la chair, tu es parfait dans l'esprit, à l'image de Dieu. Chaque fois que tu expérimentes, par exemple, une maladie, ce n'est pas l'esprit qui est malade, c'est le corps qui est malade. On va le voir tout à l'heure. Si ton esprit, si l'esprit que tu es devient malade, alors tu es proche de la mort. Tu ne peux mourir que si l'esprit que tu es, qui habite dans ce corps, est rappelé, parce qu'il ne peut plus rester là. Ou bien parce que tout simplement le corps qui le contient ne peut plus le supporter. Peu importe. Mais en tout cas, tu ne peux pas être malade. Parce que Christ est parfait. Si tu as l'image de Christ, alors tu es parfait. Amen. Et si Dieu t'a fait naître, il t'a recréé, nous dit Pierre, je crois, je ne sais plus c'est dans quel passage de Pierre, il nous a recréés à son image. Vous vous rappelez? L'esprit, l'âme, le corps. Quand tu étais dans le monde, l'esprit que tu es était mort. Les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, marchent avec leur âme et leur corps. C'est pour ça qu'ils sont aussi charnels et conduits par leur désir instinctif charnel et commettent toutes sortes d'abominations. Mais lorsque tu nais de nouveau en Jésus-Christ, ton esprit revient à la vie. Et quand ton esprit revient à la vie, il est comme Christ. Il pense comme Christ. C'est pour cela que chaque fois que tu as un désir contraire à la parole de Dieu et que tu vas commettre un péché, un acte contraire à la parole de Dieu, tu ressens des regrets. Parce que ton esprit et le Saint-Esprit sont un. Donc il ressent des remords. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à commettre l'acte? C'est le corps et l'âme qui ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5 au verset 17. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Chaque fois que tu vas commettre un acte impur, coucher avec quelqu'un, voler, mentir, ce n'est pas l'esprit qui veut ça, c'est l'âme et le corps, les deux compères, les meilleurs amis du monde qui te poussent à faire ça. Et chaque fois que tu le fais, tu ressens des remords. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu le sais au fond de toi-même que ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit parle à ta conscience et te dit « c'est pas bien ». Un jour, il y a un monsieur qui n'arrivait pas à arrêter de coucher avec les femmes. C'est-à-dire, il n'arrêtait pas. Il était esclave de la fornication. Il venait à l'église tout le temps, il priait tout le temps, mais il n'arrivait pas à arrêter. Et un jour, il va voir le pasteur Mamadou Karambiri, qui était son pasteur, et il dit, mais pasteur, je n'y arrive pas. Comment je fais? Le pasteur a même déjà prié pour lui. Il dit, pasteur, je n'y arrive toujours pas. Et le pasteur prend 1 Corinthiens 6 au verset 19, où il est écrit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Est-ce que tu crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, pasteur, je crois. Est-ce que tu crois que ton corps est la maison de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que ce corps ne t'appartient plus, c'est le corps de Jésus-Christ? Oui, je le crois, pasteur. Alors, sache qu'à chaque fois que tu es dans les draps avec une femme ou un homme, c'est le corps de Jésus que tu es en train de faire pécher. Oh! C'est le corps de Jésus que je fais pécher. Oui. Donc, si tu continues, tu vas aller en enfer. Oh, pasteur! Moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Si tu continues, parce que la Bible dit plus loin que celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu va le détruire. En fait, pour te donner une image simple, imagine que tu es chez toi, tranquille, en train de regarder ta Ligue des Champions, à Canal+, et puis tout d'un coup, tu vois un monsieur qui vient avec un gros marteau, puis il commence à taper ta barrière. Il casse ta maison. Il prend sa voiture. Il casse ta barrière. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu l'allumes. Mais ça ne va pas ou quoi? Etc. Ne serait-ce même que ta voiture. Tu n'as pas remarqué les gens, dès qu'on touche la voiture, tu es gratis, la peine de sa voiture. Oh! Tu penses à tous les millions que tu as dépensés pour la voiture. Tu penses à tous les millions que tu as dépensés. Et dès que quelqu'un érafe ta voiture dans la rue, tu es fâché, ça te fait quelque chose. Oh! C'est pareil pour Dieu. Chaque fois que tu prends son corps, sa maison, et que tu vas commettre des actes qui ne le glorifient pas, il a juste envie de te mettre des gifles. Heureusement que Christ se tient au milieu. Christ dit, non Seigneur, pardonne-le. Amen. Et quand tu es recréé à l'image de Christ, tu es parfait. Ton âme maintenant doit être restaurée. Ton corps, Dieu le guérit. Et l'esprit, l'âme et le corps, l'être que tu es, tu dois en prendre soin. Amen. Tu dois en prendre soin. Et quand tu rencontres Jésus, tu expérimentes ce qu'on appelle la grâce surabondante. Que quelqu'un dise avec moi la grâce surabondante. La grâce surabondante. La grâce surabondante, je le répète à nouveau, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un mot écrit juste dans un livre. La grâce surabondante, c'est une personne, la personne de Jésus. Il est la grâce. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie et il est la grâce. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à la 13e caractéristique parce que nous sommes dans les 21 caractéristiques de la grâce surabondante. La première caractéristique, je rappelle rapidement, la grâce surabondante fait de toi un être humain rempli de la nature divine appelée la nouvelle création. Deux, la grâce surabondante nous rétablit à notre statut de fils héritier dans le royaume de Dieu, car tu es fils. 3. La grâce surabondante nous donne un nouveau accès à nos droits légitimes, car tu as des droits en tant que fils dans le royaume. Amen. 4. La grâce surabondante restaure notre intimité avec le Père. 5. La grâce surabondante active les promesses divines dans notre vie. 6. La grâce surabondante rétablit notre autorité. Que quelqu'un dise avec moi, autorité. de régent sur la terre. 7, elle écrit toute la loi divine dans ton cœur. Toute la loi. 8, elle ouvre tes yeux pour voir la réalité de notre monde. 9, elle est la source dans laquelle tu puises toutes tes forces. Quand tu marches avec le Seigneur Jésus, tu apprends à ne plus te fier aux hommes, mais à te fier en Dieu seul. Chaque fois que tu te fieras aux hommes, ils te décevront toujours. 10, la grâce surabondante te donne le pouvoir sur Satan et sur tous ses agents démoniaques. C'est pour ça que dans le livre de Marc, au chapitre 16, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu peux chasser un démon, toi. Tu peux chasser un démon que si le Saint-Esprit habite en toi et que tu es conscient de ton autorité. Et quand tu actives cette autorité par la foi, tu prends autorité sur Christ et tu chasses le démon. Et quand le démon te regarde dans l'esprit, quand il voit Christ, il dit « Ok, je m'en vais ». Mais s'il ne voit pas Christ, tu as un problème. 11, la grâce surabondante augmente notre foi à la dimension du divin. Quelqu'un dit avec moi la foi.
La foi.
Très important. Et vous voyez que souvent on revient sur la foi. 12, la grâce surabondante nous fait opérer à ciel ouvert d'une manière surnaturelle sur la terre. Quand tu marches dans la rue, quand tu opères dans ce monde, tu dois être toujours conscient que le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 18 au verset 16, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. J'aime bien ce mot permettre. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu le permets. Si tu vis aujourd'hui une oppression, c'est parce que tu le permets. Si quelqu'un vient t'oppresser la nuit dans ton sommeil, tu le permets. Si quelqu'un vient faire le désordre dans ta vie, s'il y a une relation dans ta vie qui met le désordre, depuis on te dit laisse cette relation, c'est toi qui permets. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères dans ta vie. Tu ne peux pas. Si quelqu'un, quand une femme est avec un homme et que cet homme la frappe, et qu'on dit tout le temps à la femme, mais laisse ce gigolo. Mais je l'aime. Laisse-le, gay. Je l'aime. Je ne peux pas partir. Je l'aime. Tu permets. Jusqu'au jour où on va juste nous téléphoner que tu es morte. Dieu ne peut pas interagir dans tes affaires comme ça. Si tu ne lui en donnes pas l'autorisation. Amen. 13. La grâce surabondante détruit le manque, la précarité et la pauvreté dans ta vie. Dis avec moi, je ne suis pas pauvre.
Je ne suis pas pauvre.
Je suis riche en Christ.
Je suis riche en Christ.
En d'autres mots, ni la précarité, ni la pauvreté, ni le manque ne trouveront encore ton adresse. Ils ont perdu ton adresse depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. S'ils sont encore chez toi, c'est parce que tu permets. Maintenant, tu dois te lever. Je refuse le manque. Même s'il y a encore le manque, même s'il y a encore des difficultés financières, etc. C'est parce que tu permets. Il faut que tu te lèves maintenant et que tu prennes autorité. Et tu dis, je refuse ça. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, je traverse une situation difficile, mais je ne suis pas destiné à ça. Je vais bien finir dans le repos. Je ne manquerai de rien dans ma vie. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Christ était riche. Et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi, tu deviennes riche. Et tu ne manqueras de rien. Il faut l'accepter et le croire. Amen. On va avancer. On a presque fini cet enseignement. 14. La grâce surabondante active l'intelligence et la sagesse divine en nous. Dis avec moi la sagesse. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30 que Christ est notre sagesse. Christ est ma sagesse. Christ est ta sagesse. Qu'est-ce qu'on entend par sagesse? Je vais prendre Éphésiens chapitre 1 encore au verset 8 où on nous parle de la grâce et l'impact qu'elle a sur notre intellect. Ce que je vous dis là, c'est peut-être même des choses que vous n'avez jamais entendues. mais c'est des réalités spirituelles. Depuis le jour où Dieu m'a révélé ces choses-là, ma vie a été transformée. Éphésiens 1 au verset 8, je lis dans la version parole vivante, cette grâce, dites-moi cette grâce. De quelle grâce on parle ici? La grâce surabondante. Le verset 7, juste avant, il dit que cette grâce-là, il l'a déployée avec puissance pour ressusciter Christ. Et Paul dit au verset 8, cette grâce, il l'a déversée sur toi. Sur nous, à profusion. À profusion, ça veut dire sans limite. À profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, dites-moi sous son influence. Se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence. Ah, non, la Bible, c'est quelque chose. Quand tu lis la Bible, il faut lire doucement. Il faut bien comprendre ce que Dieu est en train de te dire ici, là. C'est lui qui a écrit. Ouvert nos yeux à la vérité, sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ah, ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. En Christ, nous avons de nouvelles facultés d'intelligence. Notre intelligence est impactée, affectée par la grâce. Quand tu es dans une situation où ton intellect est mis à l'épreuve, un examen, tu es en train d'écrire un livre, tu réfléchis sur quelque chose et tu as besoin d'une révélation, tu t'assois et tu dis, Saint-Esprit, merci pour l'intelligence divine, pour la sagesse divine que tu me donnes. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Romains 8, au verset 11, il est écrit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit habite en toi. Et s'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence, alors tu es divinement intelligent. Dis avec moi, je suis divinement intelligent.
Je suis divinement intelligent.
Elle s'active, cette intelligence, par la foi. Au contact de quoi? De la parole. La parole est une semence. Et quand tu entres en contact de la parole, c'est-à-dire quand tu es en train de l'entendre, comme en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta tête. Ton cerveau fait... Ce que j'entends là, ça me parle. Dis avec moi, je suis intelligent divinement. Il ne faut pas avoir peur de ces réalités, de ces vérités. Il faut y croire. Parce qu'elle te concerne directement. Pour faire des exploits avec Dieu, tu as besoin de sagesse. Pour aller loin avec le Seigneur, tu as besoin de sagesse. Et la sagesse, c'est qui la donne? Mais c'est Dieu. Pas la sagesse du monde, ni la sagesse intellectuelle ou la sagesse charnelle que nous vend le monde. Je parle de cette sagesse supérieure, cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui vient du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise avec moi, le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps au contact du Saint-Esprit, plus tu deviens sage. Parce qu'il est l'esprit de sagesse. Les hommes qui ont expérimenté la présence du Saint-Esprit, ce sont des gens qui sont devenus sages. Quand tu vois quelqu'un que Dieu utilise et qui a bâti des empires, sache qu'il a acquis une sagesse qui lui a été donnée par Dieu. Tu me diras, mais il y a des hommes aussi sur la terre qui ne connaissent pas Dieu, qui ont aussi bâti de grandes choses. Ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse du diable. Satan, c'était un chérubin, c'était un ange, près du trône. Tu penses qu'il n'a pas une sagesse? La différence entre lui et toi, c'est que lui, sa sagesse, Dieu appelle ça la ruse. Il est malin. Mais aux côtés de Dieu, il a vu des choses. Satan ne crée rien. Tout ce qui sort de lui, il prend de Dieu et il pervertit ça. C'est tout. Il y a des gens qui ont construit des choses extraordinaires sur cette terre. Qui leur a donné une telle connaissance et une telle sagesse? C'est le diable. Et d'où lui vient cette sagesse? De Dieu. Un jour, Satan voit Jésus, livre de Luc au chapitre 4, et il élève Jésus, il le met sur le toit du temple. Et la Bible dit qu'il lui montra tous les royaumes de la terre. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses, virgule, car on me les a données. Qui les lui a données? Mais Adam, dans le jardin d'Éden. Le jour où Adam a péché dans le jardin d'Éden, il lui a transmis toute cette richesse et cette connaissance-là à Satan. Il ne l'avait pas avant. Et tout comme c'est un homme qui a donné ça à Satan, c'est un homme qui est venu lui reprendre ça. Amen. Cet homme s'appelle Jésus-Christ, Yeshua. Amen.
Amen.
La sagesse est cette faculté supérieure de saisir les concepts surnaturels qui nous sont révélés dans la Bible et de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Quand on voyait Jésus-Christ opérer et accomplir tout un tas de choses, tout un tas de miracles, on était conscient qu'il y avait l'influence d'un autre royaume sur la terre avec lui. Les gens disaient, mais d'où lui vient une telle sagesse? D'où lui vient une telle puissance? D'où ça vient ça? Il y a un niveau de sagesse, de compréhension, de révélation que tu ne peux avoir qu'avec Dieu. Amen. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 13, au verset 11, « Il vous, dites-moi vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Dans la version français courant, il y a une faute là. Dans la version français courant, vous avez reçu, vous, dites-moi vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Mais eux ne l'ont pas reçu. Eux, c'est qui? Eux, c'est les gens de dehors. Les gens de dehors ne sont pas comme toi. Les gens de dehors n'ont pas la connaissance que toi, tu as. Toi, quand tu lis la Bible, tu comprends la Bible. Tu comprends un certain nombre de choses qui sont écrites dans la Bible. Mais le non-croyant, lui, quand il lit ça, il dit, tu es fou de croire en ces choses-là. Mais en fait, qui est fou dans l'histoire? C'est lui qui est fou. C'est toi qui as la lumière. Vous me suivez? Il y a une connaissance que l'on peut avoir seulement au contact du Saint-Esprit. Il y a des secrets, les secrets du royaume, que l'on peut recevoir seulement au contact du Saint-Esprit. Les secrets que l'on appelle les principes du royaume, les clés du royaume dont a parlé Jésus dans Matthieu 18 au verset 16 et 17. Je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, ce sont des principes, ce sont des concepts. Quand tu comprends ces concepts, si par exemple je te prends un domaine, la semaine dernière on a parlé de prospérité financière, ok? Quand je commence à te dire, alors Pythagore, Pi, investissement financier, bourse, etc., tu dis, ça ne me parle pas, c'est compliqué. D'accord? Le païen, lui, le non-croyant, il a une certaine connaissance qui lui permet de faire des choses et de réaliser des choses. C'est un premier niveau de connaissance que la Bible appelle en grec ginosko. Quand tu lis le grec, c'est le mot ginosko derrière, qui est souvent traduit en français par connaissance. C'est le même mot que Jésus-Christ a utilisé quand il dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». Le mot derrière, c'est le mot ginosko, qui veut dire simplement « Vous aurez une information qui va vous ouvrir les yeux ». C'est juste ça que ça veut dire. Amen. Après, il y a un autre niveau de connaissance dont la Bible nous parle, que le grec appelle oïda, O-I-D-A, qui veut dire une connaissance intime, particulière. Là, c'est un autre niveau. Et ensuite, il y a une connaissance parfaite, que l'on traduit aussi par le mot sagesse, qui se prononce sunesis, qui veut dire connaissance parfaite, sagesse parfaite. C'est le mot que Paul utilise quand il dit dans Éphésiens qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez. D'ailleurs, c'est sous connaissance parfaite. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et cette sagesse-là, cette connaissance-là, cela, elle vient lorsqu'on entre en contact de la grâce par le Saint-Esprit. Amen. Vous. Dans Jean 8, 23, Jésus-Christ dit une chose aux gens. Voici, ça, ce sont les paroles d'un extraterrestre. Ce n'est pas les paroles d'un être humain normal. C'est les paroles d'un extraterrestre. Il leur dit, Jean 8, 23, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Alors, fais juste l'expérience, et puis tu vas au travail, et puis tu prends la même parole, et tu prononces ça devant tes collègues de travail. Tu vas voir comment ils vont réagir. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Oh, frère, je pense que ton histoire de Dieu là, ça commence à te faire un peu dérailler. Je ne déraille pas. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. Je suis dans le monde avec vous, mais je ne suis pas de ce monde. À l'image de Christ, nous sommes d'en haut. Et depuis que tu es entré en contact de la grâce, tu as désormais en toi enfoui la pensée de Christ, la mentalité de Christ, l'image de Christ, le caractère de Christ, tout ce que Christ est, tu l'es. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, dis avec moi nous. » Quand il dit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» il est en train de s'adresser aux non-croyants. Vous ne pouvez pas instruire le Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Dieu. Mais nous, l'Église, nous avons la pensée de Christ. Nous sommes de Christ. Nous sommes Christ. Car Christ, ce n'est pas un homme. Christ, c'est un corps de personne. Toi, tu es Christ. Toi, tu es Christ. Toi, tu es Christ. Il y a un nom que papa et maman ne t'ont pas donné. C'est Christ. Pasteur Luc parlait Ondias Suna Christ. Mon grand frère s'appelle Jésus Christ. Monsieur Yannick Ngabolo Christ. C'est le nom de famille de toute la maison. Tout le monde s'appelle Christ. Quand quelqu'un dit ici, mais où est Christ? On se lève tous, Christ. Nous sommes tous là. Dis avec moi, je suis Christ. N'aie pas peur, dis encore, je suis Christ. Christ, c'est un corps de personne créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans le livre des Actes, nous sommes de sa race. En lui, nous avons le mouvement et l'être. En lui, nous avons le mouvement et l'être. La vie là, qui est en nous, là, c'est Christ. C'est pour ça que Paul dit encore dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un jour, Dieu va nous emmener en profondeur là-dedans. Vous allez juste voir pouf, des choses se produire dans l'esprit des gens. La Bible dit dans, tout à l'heure, je crois que je citerai le verset, c'est dans Luc chapitre 5 au verset 17, quand il est écrit que pendant que Jésus-Christ enseignait, pouf, des miracles se produisaient et les démons sortaient des corps. Il enseignait seulement. C'est-à-dire quand la révélation arrivait dans la tête des gens, l'esprit possédé d'un corps, il dit, oh, donc je suis autorité. Dans le corps, les deux esprits se regardent, ils regardent, tu dégages ici, sors. Je suis le patron ici. Amen. Amen. Cela veut dire que la pensée extraordinaire, la pensée de Christ est créative, la sagesse de Christ est aussi en toi. Et l'intelligence qui est en toi est une intelligence parfaite. Amen. Comprendre Dieu, embrasser Dieu, marcher avec Dieu, expérimenter la grâce surabondante, Christ nous fait penser comme lui et nous donne la même intelligence que lui, la sagesse parfaite. Amen. Et chaque jour, on doit chercher à développer cette sagesse. Chaque jour, on doit chercher à grandir dans cette sagesse. C'est pour ça que Salomon nous dit, Proverbe 4, verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Acquiert la sagesse. » Tu veux réussir dans la vie, tu veux aller loin dans la vie, tu veux accomplir des exploits dans la vie, acquiert la sagesse. De quelle sagesse il parle ici? Christ. C'est pour ça que le livre que tu dois le plus lire, c'est la Bible. Parce que c'est le livre de la sagesse. Amen. Pour finir avec ce point, comment développer la sagesse en nous? Premièrement, on développe la sagesse en nous par la méditation de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la méditation. Psaume 119 au verset 97 dit: combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, c'est-à-dire tous ces mystères-là, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Tu respectes et honores les vieillards, mais il y a des vieillards dont tu es plus intelligent. Parce qu'il y a des vieillards qui font des bêtises comme des enfants. Méditer, c'est réfléchir à travers la parole de Dieu sur un sujet spécifique. Médite la parole, lis la Bible et arrête-toi et médite. Pense-y, ressasse ça dans ta tête. Mets-le en pratique dans ta vie. Et quand tu le mets en pratique, tu observes les fruits, tu regardes les résultats. Et tu vas apprendre des choses. Amen. Salomon est quelqu'un qui passait son temps à observer les gens. Dieu lui avait donné une sagesse et il observait. Et quand il observait les gens, quand il observait les situations, il en tirait des leçons et des principes. Salomon regarde deux personnes qui sont en train de se disputer. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui pète un câble et qui fait du mal à l'autre. Et puis il sort. Proverbe tant. Il est préférable de rencontrer une ours qui vient de perdre ses enfants qu'un fou pris de sa folie. Sagesse. Oui. Tu es là le matin, tu es en train d'aller au travail, boum, quelqu'un te bouscule. Ah, monsieur, vous m'avez dit pardon. Quoi, tu veux quoi? Si tu réponds, il va te frapper. Le matin, tu es en train d'aller au travail. La sagesse veut que tu dises, mon frère, il n'y a pas de problème, on rentre. Ça va. Sagesse. Parce que tu ne sais pas que celui-là, il peut te frapper et peut-être te tuer là. Et ta vie est finie là aujourd'hui parce que tu as juste répondu. Un jour, j'étais dans le métro à Paris et puis je rencontre un monsieur balèze, costaud. Et puis il marche, il bouscule un petit monsieur, tout petit. Et puis, le tout petit fait, mais vous ne pouvez pas dire pardon monsieur, ça ne va pas dans votre tête. Et puis il fait, vas-y, dégage. Il pousse le petit, qu'est-ce que je peux me faire? Et les deux commencent à s'embrouiller. Et il a poussé le petit, genre je vais te fracasser si tu continues. Le petit est tombé, quand le petit s'est relevé, tout d'un coup, on était tous sur le quai du métro. Le petit est devenu rouge, tomate. Et il s'est mis à crier, viens, je vais te tuer. Viens, je vais te tuer. Il était tellement rouge. Rouge. T'as dit, même moi, j'ai regardé, sagesse, j'ai dit, grand, si tu vas là. T'as dit, le costaud que c'était, quand il a vu l'aspect du monsieur, ça l'a fait paniquer lui-même. Il a dit ça. Il a fait, monsieur, il n'y a pas de problème. Ça va. Mais il pouvait vraiment Mais là, c'était spirituel. C'était juste un démon qui s'était manifesté que je vais te tuer. Sagesse veut que tu ne n'ailles pas. Amen. Gloire à Dieu. Dans la méditation de la parole, on apprend beaucoup de choses. Paul dit dans 1 Timothée 4, 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Quelqu'un qui est au contact du Saint-Esprit tous les jours, au travers de la parole de Dieu, quelqu'un qui est au contact de la grâce surabondante tous les jours, et quelqu'un dont les progrès deviennent évidents. Évident, ça veut dire que ça devient visible. Quelqu'un qui marche avec Dieu, on voit les fruits. Si tu vois quelqu'un, mois, après année, depuis qu'il est en Christ, tu vois, il n'y a rien de changé dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas au contact du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être au contact de Dieu et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Deuxièmement, comment développer cette sagesse? Par les enseignements et les livres. Dites avec moi les livres. Il y a des choses que tu vas apprendre dans la Bible. Mais il y a des choses que tu ne peux apprendre aussi que dans les livres. Écrit par d'autres personnes. Car d'autres personnes ont reçu des révélations que toi, tu n'as pas reçues. C'est pour ça que c'est important de lire les livres. La Bible nous dit que Daniel avait besoin d'une sagesse pour résoudre un certain nombre de problèmes, de situations, quand il était dans le royaume de Nebuchadnezzar. Et la Bible nous dit dans Daniel chapitre 9, au verset 2, « Moi, Daniel, je vis par les livres. » De quel livre il s'agissait ici? Plus loin, il dit, dans la version française courante, il dit, moi, Daniel, je consultais les livres sacrés, tout comme ta Bible, afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie. De quel livre il est parlé ici? Il est en train de lire les livres du prophète Jérémie. Et c'est en lisant les livres du prophète Jérémie que la révélation lui vint. Ses yeux s'ouvrent, sa sagesse s'ouvre. Toi qui n'aimes pas lire là, les semaines passent, tu ne lis jamais. Même pas un livre par mois. Les gens qui sont très instruits sont des gens qui lisent beaucoup. Les gens qui connaissent beaucoup de choses sont des gens qui lisent beaucoup. Beaucoup de choses que je partage avec vous sont des choses aussi que j'ai lues dans des livres. Il y a des pasteurs qui écrivent des livres. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent des livres. Pourquoi ces gens se sont levés un matin et ont écrit des livres? Parce qu'ils ont acquis tellement de connaissances qu'ils ont dit, il faut qu'avant de mourir, de quitter cette terre, il faut que je transmette cette connaissance-là. Et quand tu passes beaucoup de temps à lire la Bible, mais aussi des livres spirituels, d'abord, tu apprends énormément de choses concernant le royaume. Mais il y a aussi d'autres livres, même écrits par des non-chrétiens. Si par exemple tu es dans un domaine, admettons par exemple, tu opères dans le domaine de la finance, tu es banquier, et tu veux aller très loin dans le domaine de la finance, il faut que tu lises des livres qui parlent de finance. Non, non, moi je lis que la Bible. Non, mais il y a des révélations que Dieu a données à d'autres personnes dans la finance et qui ont écrit des livres. Va les lire. Dis avec moi, j'aime lire. On va mentir. Hein. Les enseignements, les prédicateurs, tous ces gens-là qui écrivent, ils sont comme des guides spirituels pour nous. Ils nous montrent la voie et ils nous aident à comprendre certaines choses. Et c'est pour ça qu'on doit beaucoup lire. Il y a les livres écrits. Mais si toi, au bout de deux pages, tes yeux te font déjà mal, tu ne peux plus continuer, il y a aussi les livres audio. Même les livres audio, maintenant, je trouve ça extraordinaire. Tu peux même les télécharger gratuitement sur YouTube. C'est-à-dire, c'est des auteurs eux-mêmes qui prennent leur bouquin et puis qui lisent à voix haute leur livre. Et tu es là dans la voiture et tu écoutes le livre. C'est comme un message. Vous me suivez? Moi, je passe mon temps à écouter des livres, à écouter des choses tout le temps, tout le temps. Toute la journée, je ne fais que ça. Et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et ça réveille la sagesse. Dis avec moi, la sagesse. Paul parle à son fils Timothée et il est en train de lui dire, quand tu viendras, Timothée, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. N'oublie pas les livres et les parchemins. C'est très important. Car c'est là qu'il y a la connaissance. Amen. Peu importe ce que tu sais aujourd'hui, ton ignorance sera toujours plus grande que ce que tu as déjà appris. C'est pour ça qu'il faut la combler, cette ignorance. Il faut la vaincre. Troisièmement, comment développer cette sagesse? Par la supplication dans la prière. Passer du temps dans la prière. Jacques 1, 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Prie, demande à Dieu la connaissance, demande à Dieu la sagesse. S'il y a bien un sujet pour lequel tu dois prier tous les matins, c'est la sagesse. La sagesse te permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. La sagesse te permet de prendre les bons choix. Demande à Dieu de te préserver, de prendre des mauvaises décisions qui peuvent affecter ta vie de manière tellement négative que tu vas le regretter le restant de ta vie. Tu veux sortir avec quelqu'un? Tu veux sortir avec une fille? Ok, elle est jolie d'apparence. Prie avant. Parce que si tu prends la décision d'aller te mettre avec cette fille et qu'en fait derrière c'est un vrai serpent, tu vas souffrir toute ta vie. Tu veux sortir avec un garçon? Prie avant. Tu me plais? Je te plais. On se plaît? Nous nous plaisons. Ok, maintenant, on va voir si ça plaît à Dieu. Et on va prier. Oh, mais c'est bon, on peut se voir. Non, va d'abord prier, mon frère. Tu es très mignon, je t'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais va d'abord prier, mon frère. Il paraît que tu es très spirituel, non? Alors va prier. Moi aussi, je vais prier, je vais mettre ça entre les mains du Seigneur. Ah, c'est le genre de réponse. Tu viens voir la petite et puis, ça va, je peux vous t'inviter. Je vais d'abord prier, demander au Seigneur. C'est quel goût ça? C'est quoi ça? Je vais prier, je vais demander au Seigneur. Tu l'appelles. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Tu as prié? Je n'ai encore rien reçu du Seigneur nous concernant. Donc, il faut encore attendre. Franchement. Et là, qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'elle, elle dit ça, Dieu dit sagesse. Et toi, quand tu fais, Dieu dit insensé. Oui, d'ailleurs, demander à Dieu, Seigneur, mets dans son cœur que je lui plaise et qu'elle dise oui. Toi, tu fais autre chose. Dieu dit, je vais encore plus mettre dans son cœur qu'elle ne vienne pas vers toi. Parce que tu es un insensé. Hein? Amen. Un autre moyen, enfin, pour finir, par le Saint-Esprit. Sans considération de la personne du Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir de lui quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne se révèle qu'à ceux qui l'honorent et ceux qui le respectent, qui l'honorent, qui l'élèvent, qui le considèrent, qui ont de la révérence en sa personne. Avoir de la révérence, je dis avoir de la révérence, ça veut dire dans tous les domaines de ta vie, avoir de la révérence envers Dieu. Aimer sa personne, honorer sa personne. Quand tu es quelque part avec des gens et que tu vois que ces gens déshonorent le Saint-Esprit par les paroles de leur bouche, mais par leur attitude, tu te lèves et tu t'en vas. Quand on te demande pourquoi tu t'en vas, tu dis parce que si vous n'honorez pas Dieu, je m'en vais. Une fois, j'étais à une réunion avec des gens, avec quelqu'un. Et là, l'un d'entre eux met une photo et puis tous se mettent à regarder la photo. Oh, elle est comme ça, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Je me suis levé et je suis sorti. Et Dieu, où? Je suis parti. Au revoir. Je ne reste pas là où vous êtes. Parce que le Saint-Esprit n'est pas honoré là. Un jour, un pasteur arrive dans une église. Le culte va bientôt commencer. Et puis, c'est lui qui doit prêcher. Sauf que les gens ne savent pas que c'est lui qui va prêcher. Et il rentre dans l'église et il observe l'église. Et les gens sont tous debout, en train de parler, en train de rigoler, ça parle partout. Et sur le coup, ça l'a irrité. Il dit, mais ça, c'est quoi désordre dans l'église? Le culte va commencer dans même pas 5 minutes. Les gens sont debout, en train de parler. Et puis quelqu'un vient avec le micro, alléluia, nous allons commencer le culte. Mais personne ne l'entend. Tellement ça va, alléluia, nous allons commencer le culte. Tout le monde regarde. Il est venu, il a demandé au pasteur l'autorisation, il a pris le micro, il a dit bonjour. Mesdames et messieurs, je suis le pasteur John Beaver et je suis censé prêcher tout à l'heure dans cette église et je vous annonce que je ne prêcherai pas ici parce que vous avez déshonoré le Saint-Esprit. Merci, au revoir. Une autre fois, un autre pasteur que je connais aussi très bien s'apprêtait à prêcher dans l'église et il y a eu la louange, il y a eu l'adoration et puis après, avant que lui il prêche, on dit il y a un artiste qui va chanter. L'artiste monte. Et l'artiste chante une chanson très mondaine, avec des danses bizarres, tin, 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 sur l'estrade de l'église. Il est resté, il a regardé, tellement ça l'a choqué. Il a regardé le pasteur à plusieurs reprises, le pasteur ne disait rien. Genre, il faisait des signes, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas grave. Dès qu'il va encore, tin, 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 il fait, oh là là. Lui, il est resté assez irrité, il a dit, mais ça c'est quoi? Ensuite, le pasteur monte à la fin de la chanson, tout le monde acclame aussi, oh le Seigneur. Et puis l'artiste qui chantait, c'était un gars, il chantait les lunettes noires, les boucles d'oreilles, les pantalons serrés, tout ça. Il fait danser l'église, tout ça. Et à la fin, pour rattraper un peu le coup, loué, loué, loué. À la fin, on lui dit, pasteur, alléluia, nous allons accueillir maintenant le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu en question, il est monté. Il a pris le micro, il a dit, repentez-vous, car vous avez péché. Et déshonorer le Saint-Esprit, actuellement qui est irrité. Je ne prêcherai pas dans cette église et je ne prêcherai jamais dans votre église. Mesdames et messieurs, merci, au revoir. Les gens étaient là. Juste parce que Dieu avait été déshonoré. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi cette parole. Christ vit en moi. Et il m'a rendu divinement intelligent. Je suis rempli de la sagesse divine. D'une sagesse supérieure. Qui vient d'en haut et qui me distingue. Je réussis dans tout ce que je fais. Par la grâce surabondante de Christ. Amen. Et on va finir avec un dernier point. Je voulais aborder ce point aujourd'hui parce que le Seigneur m'a montré un certain nombre de choses et c'est pour ça que je pense qu'il faut que je le dise. 15e caractéristique. La grâce surabondante restaure la santé divine dans ton corps et irrigue la guérison. Dis-moi la guérison.
La guérison
divine en toi pour détruire toutes les maladies. Notre corps, la Bible nous dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu ne peut donc pas accepter que tu sois malade. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas malade. Mais si demain, tu expérimentes la maladie, tu comprendras ce que nous sommes en train de partager là. La promesse de la santé divine est une promesse accomplie dans l'alliance que nous avons avec Christ. Et tu dois comprendre que sans la santé, tu ne peux pas accomplir quoi que ce soit dans la vie. Amen. La santé, c'est le fondement de tout. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi, avant toute chose, avoir une bonne santé est quelque chose de primordial. Et ça, Dieu le sait. Dieu ne peut pas te demander quelque chose et il voit que tu es malade. Tu es là, abattu sur ton lit. Et tu es en train de voir qu'il te dit, lève-toi. Et va prêcher l'évangile en plein cœur de la ville. Mais tu ne peux même pas te lever. Non. Ça ne va pas. Avant de te demander de te lever, il va d'abord te guérir. Mais la guérison, la promesse de la guérison est quelque chose, est une promesse, oui, qui est accomplie dans la Bible. Mais pour beaucoup, ils n'expérimentent pas cette promesse parce que tout simplement, ils n'ont pas l'attitude qu'il faut par rapport à la parole de Dieu. On va le voir. Dieu ne peut pas souhaiter que tu sois malade. Amen. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas souhaiter que tu sois malade. Dans 3 Jean, je ne sais plus c'est quel passage, 3 Jean 2, il est écrit, c'est Jean qui est en train de parler, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Chaque fois que tu expérimentes une maladie, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Il y a des gens qui expérimentent des souffrances et des maladies et qui croient que c'est la volonté de Dieu pour leur vie. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, par cette maladie, je complète les meurtrissures de Christ. Oh! Donc tu es en train de dire, non mais c'est vrai, il y en a qui disent ça dans certaines religions, qui disent que la maladie est une manière de compléter les souffrances de Christ. Tu as déjà entendu ça? Donc tu es en train de dire que ce que Christ a fait à la croix est incomplet. C'est ce que tu es en train de dire. Tu vas bien mourir dans ta maladie même. Si Christ a fait ce qu'il a fait est incomplet, alors tu vas mourir. Dieu peut permettre qu'une maladie atteigne notre corps pour une raison bien spécifique et pour un temps donné. Mais jamais il ne peut vouloir que l'on soit malade au point de mourir. Jamais Dieu ne peut permettre ça. Pourquoi? Parce que la maladie qui conduit à la mort, ce n'est pas la maladie qui vient de Dieu. Si Dieu te rend malade au point de te faire mourir et que tu es en Christ, il va te le annoncer. Il va te dire que c'est comme ça que j'ai décidé que tu partes. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Mais si dans l'esprit, tu es convaincu par le Saint-Esprit que cette maladie n'est pas de Dieu, mais une attaque de Satan, alors tu dois te lever et prendre possession de ta guérison. Amen. Parce que le diable aussi peut t'attaquer dans ton corps. La guérison divine, elle coule dans nos veines. Vous vous rappelez, Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si le Saint-Esprit habite en moi, il ne peut pas accepter qu'il y ait la maladie dans son corps. Est-ce qu'on me suit? La guérison est une promesse divine, accomplie. Et elle est inscrite pour toujours dans l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. L'un des alinéas de l'alliance que nous avons avec Christ, c'est la guérison. Dis avec moi, je suis guéri.
Je suis guéri.
La maladie n'est pas de Dieu. Même si il permet, mais ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas créer la maladie. La maladie est le résultat soit du péché, soit d'une attaque par l'ennemi. Et quand on te dit une attaque, ce n'est pas Dieu qui t'attaque, c'est Dieu qui permet que l'ennemi t'attaque. Et si Dieu veut te sauver lui-même, il le fera. Sinon, il te demandera de te lever et de prendre autorité sur ça. Amen. Et la principale raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas la guérison, c'est qu'ils ne croient pas en leur guérison. Tu vas me dire, mais pourtant je crois. Pourtant je confesse la parole de Dieu, etc. Ça, je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu dois d'abord croire fermement que Dieu te guérit. Amen. Tu dois accepter l'accomplissement de la promesse. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu nous montrait déjà qu'il se portait garant de notre guérison. Exode 15, 26, regarde ce que Dieu dit ici, c'est très intéressant. Les gens connaissent juste la fin du verset. Les gens aiment répéter dans les slogans chrétiens, dans les églises, toujours la fin du verset. Mais ils ne lisent pas tout le verset. On est champion pour ça. Il dit, Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu fais ceci, si tu fais cela. » On est dans quoi ici? On est dans le faire. Vous rappelez la loi? Amen. La loi nous pousse toujours à faire des choses pour obtenir quelque chose. Là, il s'adressait à des gens qui étaient sous l'alliance de la loi. Mais nous, nous sommes sous la grâce surabondante. Dis avec moi la grâce surabondante. Appelé Christ. Et la grâce surabondante est l'accomplissement de la promesse en nous. Plus besoin de conditions de faire quoi que ce soit, la guérison est nôtre. Amen. Tout ce que Dieu te demande dans l'alliance de la grâce, c'est de croire en Jésus-Christ et de marcher dans sa parole. Bien sûr que quand on dit marcher dans sa parole, si tu pèches et tu laisses entrer le péché dans ta vie, la maladie peut venir te frapper aussi. Mais quelqu'un qui est en Christ, affirmé dans la parole de Dieu, qui se consacre et marche dans la sainteté, ne peut pas être malade. Et si la maladie vient, alors soit c'est Dieu qui permet pour un but bien précis, soit c'est une attaque. Il doit se lever pour récupérer sa guérison. Est-ce qu'on me suit? Regarde, la Bible dit dans Matthieu 8, verset 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. » Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. La promesse devait être accomplie et elle a été accomplie en Jésus-Christ. Amen. Et il est encore écrit dans Acte 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Sous quoi? Sous l'empire du diable. La maladie ne vient pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand la maladie persiste, quand elle résiste, tu dois te lever et prendre possession de ton héritage. Et dans ton héritage, il y a une promesse que l'on appelle la guérison. Dis avec moi la guérison.
La guérison.
La foi que Dieu nous demande d'avoir, elle est comme un muscle. Okay? Elle est comme un muscle. Plus tu travailles, plus le muscle grandit et grossit. De même, plus tu travailles ta foi et plus tu pourras vaincre la maladie plus facilement. Est-ce qu'on me suit? Comment accéder à la promesse de guérison pour finir très rapidement? Premièrement, il faut accepter la parole de Christ concernant ta vie. Je dis bien accepter. Il ne faut pas juste la lire et la prononcer à haute voix sans avoir vraiment compris. Il faut la lire, il faut la comprendre et il faut l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes, il y a quelque chose qui suit derrière. Il y a une attitude qui suit derrière quand tu as accepté et compris quelque chose. Tu dois accepter tout ce que la parole de Dieu dit au sujet de ta guérison. Elle est la santé pour ton corps, la parole, et tu dois l'accepter. Pas demain, mais aujourd'hui. Luc 5, 17, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Quand la puissance de Dieu se manifeste au milieu de son peuple, il y a toujours des guérisons. Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Et Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait des malades au milieu de son peuple. On me suit? Dis avec moi, je suis guéri. Au nom de Jésus. Quand on dit la guérison là, ce n'est pas seulement la guérison du corps. Hein. Il y en a parmi d'entre vous, vous êtes malade dans votre âme. Vous avez des blessures dans votre âme. C'est pour ça que vous avez du mal à avoir confiance en vous. Vous avez du mal à croire que Dieu a un plan pour vous. Vous êtes toujours pessimiste. Vous ne croyez pas en votre avenir, etc. Ou bien quand vous avez vécu des blessures émotionnelles, quand on vous a dit des choses qui vous ont atteint, qui vous ont blessé, et ces choses-là vous bloquent. Surtout quand ces paroles sont venues de personnes que vous aimiez, des paroles très proches, vos parents, des frères ou des oncles que vous aimiez beaucoup. Est-ce qu'on me suit? Quand vous avez expérimenté le rejet, tu es né dans une famille où tes parents t'ont toujours rejeté, tes parents t'ont toujours dénigré, tes parents ne t'ont jamais considéré. Pourtant, toi, tu as toujours voulu faire des efforts pour leur montrer que tu les aimais, etc. Mais leur attitude t'a détruit. Quand tu grandis dans une famille où papa et maman sont toujours en train de te traiter de vaurien, imbécile, regarde-le, bête comme il est, bête comme les pieds, pauvre type, bah, regarde-moi cette fille-là, n'importe quoi. Et puis tu lui mets encore une gifle. Un enfant qui grandit dans un environnement comme ça, il y en a beaucoup qui grandissent dans un environnement comme ça au Gabon, beaucoup. Parce que beaucoup de parents manquent d'amour envers leurs enfants. Beaucoup. L'insulte l'enfant, shoot l'enfant, frappe l'enfant comme s'il frappait un monsieur dans la rue. Donc quand quelqu'un grandit dans des choses comme ça, vous pensez que quoi? Vous pensez qu'il n'est pas malade? Il est détruit à l'intérieur de lui. Et il n'y a que Dieu qui peut restaurer ça. Donc quand on dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » là, quand Dieu te regarde, il te scanne, il dit « Dans l'âme là, esprit, âme, corps, dans l'âme là, il y a un dit problème. Tu es malade ici là, il faut te soigner. » Il y a des femmes, par exemple, quand elles vont au mariage, elles vont au mariage avec le monsieur, elles bousillent son mariage parce qu'elle est malade dans l'âme. Toujours découragée, toujours pessimiste, toujours agressive. Parce que quelqu'un qui est blessé et qui est à terre, il sera agressif. Et il y a des gens qui sont agressifs parce que tout simplement, ils sont malades dedans d'eux. Et ce n'est que cette blessure-là qui les amène à réagir comme ça. Amen. Tu dois accepter la parole de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est ton docteur personnel. Les médecins de ce monde peuvent faire des diagnostics, mais le pronostic vient du médecin personnel, Christ. Et le médecin personnel dit, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53, au verset 4 à 5, je lis juste le verset 5, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le pronostic du médecin. Tu es guéri. Amen. On regarde la parole. Tu n'es plus censé être malade. Tu n'es plus censé vivre dans le désespoir. Tu n'es plus censé avoir peur. Tu n'es plus censé être découragé. Tu dois croire ce que le médecin personnel dit de toi. Et il dit que tu es destiné à une vie radieuse, à une vie prospère. Tu ne seras pas malade. Tu vivras de longs jours. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Et la maladie ne sera jamais un obstacle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, je te guéris. Amen. Et enfin, on va finir avec le deuxième. Le deuxième point, c'est proclame ta guérison avec ta bouche. Matthieu 12, 34 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu sortiras de ta bouche. Tout ce que tu crois dans ton cœur profondément, c'est ce qui sortira de ta bouche. Tu dois accepter par la foi et ensuite, quand tu as accepté, tu dois maintenant proclamer ta guérison. Ne proclame pas le contraire. Il y en a qui, beaucoup, ils n'expérimentent pas la guérison parce que tout simplement, ils disent je crois, mais quand ils parlent, ils disent le contraire. Oh, j'ai mal ici. Ne dis pas que tu as mal. Dis, je suis en bonne santé. Dis avec moi, je suis guéri.
Je suis guéri.
Et quand tu acceptes la vérité du médecin personnel, quand tu acceptes le pronostic, tu commences à parler en fonction du pronostic. Tu ne dis pas « je vais guérir », tu dis « je suis guéri » parce que le médecin a dit « vous êtes guéri ». Amen. Ne regarde jamais à ce que les gens de dehors disent de toi. Regarde toujours à ce que Dieu dit de toi. Ok. Proverbe 18, verset 21 dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits ». Accepte, proclame, et enfin le troisième point, prie. Accepte, proclame, parle. Comme le dit Jésus, parle. Jésus-Christ a dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que cela arrive, il le verra s'accomplir. C'est parce qu'il a dit, crois. Mais il peut arriver aussi que la maladie résiste. Elle reste là. Tu parles, tu crois, mais ça ne part pas. Là, le Seigneur dit, la troisième étape, tu pries maintenant. Prie, ne prie pas n'importe comment. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie. Jacques 5, 13 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un souffre, qu'il prie. Qu'il prie. Tu as accepté, tu as proclamé et tu pries. Et quand tu pries, tu supplies pour avoir ta délivrance. Amen. Je voudrais que tu te lèves maintenant. Si tu peux, pour ceux qui peuvent. On va se lever, s'il vous plaît. Et par la foi, tu vas dire ces paroles avec moi. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors il n'y a pas de cohabitation possible avec un démon ou une quelconque maladie. Tu as entendu la parole, tu l'acceptes. Tu proclames la parole. Tu pries. Mais quand tu la proclames, tu dois la proclamer avec foi. Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir ceux qui sont malades. Dieu veut guérir ceux qui doivent être restaurés. Dieu veut guérir ceux qui ont rencontré toutes sortes de difficultés, d'épreuves et de rejets. Dieu veut les guérir. Dieu sait qu'il ne pourra jamais nous envoyer en guerre sur le champ de bataille si nous ne sommes pas totalement restaurés. Beaucoup d'entre nous ici, on ne le dit pas, on le garde pour nous, mais on est passé par des moments vraiment très compliqués, particulièrement au sein de nos familles, particulièrement avec nos enfants, avec nos parents, avec nos maris, nos mariages. Beaucoup ont beaucoup souffert dans le mariage avec des hommes qui leur ont fait beaucoup de mal, des femmes qui leur ont fait beaucoup de mal. Beaucoup ont souffert et sont des animaux à terre. Et Dieu dit, il faut que tu te relèves et que tu acceptes qu'aujourd'hui, je te guéris. Dis avec moi, par la grâce surabondante de Christ, la santé divine est mon partage. Et la guérison divine coule dans mes veines. Cette maladie dans mon corps est illégale au regard de la parole du Seigneur. Jésus a déjà payé le prix de ma guérison et de ma pleine santé. J'accepte le pronostic surnaturel de mon médecin personnel. Jésus-Christ. Et je refuse le diagnostic naturel des médecins de ce monde. Je suis guéri. Je suis guéri. Satan est un menteur. Satan, tu es un menteur. Et tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Et sur mon corps. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, Jésus-Christ. La santé divine est mon partage, car elle fait partie de mon héritage. Je déclare maintenant qu'il n'y a plus de cohabitation avec la maladie dans mon corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Aucune cohabitation au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la maladie est vaincue dans ma vie, au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis guéri, je suis guéri, je
accompli.
C'est fait.
Au nom de Jésus.
Amen.
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 Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.